France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le problème avec le procès Mila, c'est qu'il y a plusieurs affaires en une. Une affaire de liberté d'expression, une affaire de droit au blasphème, et puis bien sûr de cyberharcèlement. On n'est pas dupe de ça, bien sûr, et c'est aussi ce qui a apporté de la complexité au débat. Néanmoins, on a un peu le sentiment de retourner parfois à la case départ et celle du harcèlement quand on voit les profils des harceleurs, ceux qui se sont retrouvés dans le box des prévenus. Et là, on a l'impression de retomber sur ce que, hélas, nous connaissons déjà. Pas d'islamiste fou chez Mila, pas de discours lénifiant sur les religions, non, mais des insultes et des menaces sexistes, misogynes, homophobes, proférées par un futur gendarme. Sick, j'ai envie de dire. Un étudiant en psycho, exactement comme dans les cas de harcèlement en ligne, déjà largement connus, quand on cherche des paumés, des solitaires, des pas bien dans leur peau, on tombe sur des salariés, des pères de famille, des journalistes, des profs, et ce que vous voulez, qui, à la fin, ont tous un point commun. Ce qu'ils veulent, c'est faire taire, et faire taire de préférence les femmes. Ce que l'on retrouve aussi, c'est la justification. Je pensais pas faire mal, j'ai écrit ça à un moment de colère, j'avais déjà oublié le lendemain, c'était pour rire. Le procureur au procès de Mila a dit, cette affaire doit permettre une prise de conscience, peut-être. Ou peut-être pas, et c'est ce dont on va discuter ce soir. Comment faire comprendre que sur Twitter comme ailleurs, les mots ont un sens, les interdits sont les mêmes que dans la rue, les peines encourues sont bien réelles, comment lutter contre ces raids et ces réseaux sociaux qui ont eux-mêmes perdu au fond le contrôle d'eux-mêmes. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jackie, c'est vous le premier. Bonsoir et bienvenue.
Merci Fabienne Sintès, bonsoir France Inter. Alors, permettez-moi d'abord une petite digression. Je voudrais saluer Pierre Veille et lui dire que ses saillies musicales nous manquent sur France Inter. Voilà.
C'est et fait, peut-être qu'il vous écoute voilà. Et il vous embrasse. Merci. Allez-y Jackie.
Merci. Je voudrais dire que j'ai travaillé depuis 1997 sur un premier site internet, donc il y a bien des années, et je pensais que cette technologie allait rapprocher des gens. Or, je m'aperçois que ça a été récupéré par des gens qui peuvent diffuser librement la haine, qu'il n'y a aucun contrôle sur ces phénomènes, que pour des journalistes, pour des médias, pour des télévisions, des journaux, etc., on demande des garanties, on demande de rendre des comptes, et que n'importe quel abruti anonyme peut se répandre dans la haine et alimenter des fake news et harceler les gens en ligne sur un média qui peut faire des millions de vues. Et rien n'est fait pour contrôler ce phénomène. Et je pense que les pouvoirs publics ont là une responsabilité majeure, qu'ils devraient absolument légiférer sur la façon dont c'est organisé et qu'il est absolument indispensable pour... On a vu des gens qui contestaient le réchauffement climatique et je me suis battu sur Internet contre pendant 10 ans sur des gens qui refusaient ce phénomène qui aujourd'hui, on a vu le rapport du GIEC aujourd'hui. Donc voilà, il y a vraiment une absence totale des pouvoirs publics sur ce phénomène. Et il serait important pour le bien de nos sociétés, pour l'avenir du monde et des esprits.
On vous a entendu qu'on puisse légiférer autour de ça, Jackie, et qu'on puisse encadrer tout ça un peu mieux. Merci beaucoup pour cette question, Jackie, cette remarque et sur cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Justine Atlan est avec nous. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association e-enfance et Nadia Dame est là également. Bonsoir Nadia.
Bonsoir,
merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes productrice à France Inter, évidemment. Vous animez le dimanche soir à 22h. Modern Love, on vous trouve sur Arte aussi. Puis vous êtes un peu une pionnière. On va le dire comme ça, pas tout à fait pionnière d'ailleurs, il y en a eu d'autres avant vous, mais vous avez été cyberharcelée, c'était en 2017 et certains de vos harceleurs ont été condamnés et ouais. On verra tout à l'heure jusqu'à quel point d'abord un, c'est pas facile et deux, des condamnations, il n'y en a pas tant que ça, mais je voudrais qu'on oublie le sens de la question de Jackie. Justine Atlan, d'abord il a cette phrase, il dit les réseaux sociaux, internet ont été récupérés. Est-ce qu'ils ont été récupérés ou est-ce que au fond on se dit maintenant on a laissé filer en fait, on l'a pas vu venir et aujourd'hui les réseaux eux-mêmes sont dépassés de toute façon par ce qui a été créé. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ?
On peut remettre sûrement pas.
Frise dans le tube.
On peut rarement revenir en arrière de toute façon dans la vie, donc on peut pas revenir en arrière. Ce qui est vrai, c'est qu'on a les réseaux sociaux nous ont offert quand même, heureusement, beaucoup d'opportunités, sinon on ne s'en serait pas tous autant saisis. Maintenant, c'est vrai que notre dimension numérique est présente dans toutes nos vies, pour tout le monde, donc c'est une dimension qu'il faut, voilà, qu'il faut garder. Ces outils sont ultra performants, mais ils n'ont pas été pensés, y compris par leurs créateurs eux-mêmes. En fait, vous entendez Jack Dorsey, le créateur de Twitter, vous entendez Mark Zuckerberg dire « Ah bah oui, on ne savait pas. On a créé des produits, on ne pensait pas que ça allait être utilisé comme ça, on ne pensait pas que... » Donc on a l'impression qu'ils ont d'abord pensé à créer des facultés de communication, sans du tout penser... on a envie de dire sans du tout connaître la nature humaine et qui est ainsi faite, et qu'en fait eux-mêmes ne font qu'au courir derrière en fait le détournement qui peut être fait par des personnes effectivement malveillantes, etc. et tout. Donc c'est un peu comme s'ils nous avaient proposé un rêve, un rêve qui allait peut-être résoudre plein de problèmes, et puis que finalement ils sont heurtés aussi à la réalité, sauf qu'entre-temps on a été des millions, des milliards maintenant à être présents là-dessus, et qu'effectivement on est tous en train de... et on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on l'a... On l'utilise tous, on ne va plus pouvoir s'en priver. Et on leur a laissé beaucoup de pouvoir aux réseaux sociaux quand même, parce que de facto, la modération, c'est eux qui la font.
J'allais dire, ils courent derrière, mais ils ne courent pas très vite, pour tout dire. Moi, je veux bien leur donner le bénéfice du doute sur, au départ, est-ce qu'on pouvait imaginer effectivement que ce genre de choses existerait? Après tout, il y a eu une belle idée au départ, mais enfin, maintenant...
Non, mais je disais ça avec de l'ironie, c'est-à-dire que mon propos, c'était effectivement de dire qu'ils auraient peut-être pu prévoir, parce qu'ils connaissent très bien la psychologie humaine, suffisamment d'ailleurs pour nous rendre très addicts à ces produits, donc ils auraient pu penser aussi aux désagréments qu'ils auraient pu avoir. Le problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on est un peu coincé, et la référence au pouvoir public est un peu là, c'est qu'on leur a laissé beaucoup modérer eux-mêmes, décider eux-mêmes si des contenus sont illégaux ou pas, agir sur la liberté d'expression, la censure. On leur a laissé tout ce pouvoir-là, et aujourd'hui on essaye au niveau des gouvernements en tout cas de se dire, est-ce qu'il faut qu'on leur récupère complètement à 100%, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent plus du tout, et c'est que la justice qui le fait. Dans un état de droit, ça devrait être ça, mais on voit bien qu'en termes de réactivité, ça va être compliqué. Ou est-ce qu'à l'inverse, on leur laisse peut-être même encore plus continuer à intervenir? Et objectivement, les gouvernements sont pas d'accord, et on n'arrive pas à décider là-dessus.
Mais quand il y a meute, quand il y a attaque en meute, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant dans les procès au fur et à mesure, c'est-à-dire chaque personne en soi a juste envoyé un tweet, mais ne peut pas ignorer qu'ils ont été 350 ou 400 derrière. Qu'est-ce qu'on voit quand il y a meute? C'est-à-dire le réseau social en soi, est-ce qu'il peut ignorer qu'il y a 350 personnes en même temps, 1000, 2000, 100 000 personnes en même temps sur Nadia Dam ou sur quelqu'un d'autre? Est-ce que ça se voit, ça?
Ça se voit nécessairement parce qu'il y a
On le voit, mais est-ce qu'il y a une alerte? Est-ce que c'est alertable?
Dites-vous que si vous le voyez, en tout cas dans des cas, je pense effectivement comme ce qu'il y a avec Nadia, alors sans parler de Mila qui a eu quand même plus de 200 000 sur une journée, donc c'était quand même un phénomène qui est quand même exceptionnel. Ça se voit nécessairement parce qu'il y a une activité très forte sur un seul sujet, sur une seule thématique, avec un hashtag, ou plusieurs, mais qui sont pas non plus extrêmement nombreux, qui est assez facile à référencer. Nous, on s'est occupé effectivement de Mila en janvier 2020. On l'a prise en charge tout de suite, et on a eu justement à gérer ça. Et on a été capable, nous, de repérer un certain nombre d'hashtags qu'on a transmis ensuite à Instagram ou à Twitter pour que justement, en fonction de ces hashtags-là, tout de suite, ils essayent d'arrêter toutes les communications et tous les messages qui étaient liés. Donc, ils sont capables de le faire, et donc, c'est ce dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Effectivement, c'est une question d'investissement. On parle des entreprises, donc c'est une question de choix d'investissement.
Combien de temps ça dure? Est-ce qu'on sait combien de temps ça dure? Quand on voit arriver un hashtag, pardon, on va dire les mots, on voit hashtag sale pute, puisqu'en ce moment, on en reparlera d'ailleurs, il y a un film qu'on peut voir toujours sur arte.fr qui est formidable là-dessus. Le réseau social qui fait bien son boulot voit le hashtag, un truc terrifiant de ce genre, combien de temps, si vraiment il limitait du sien, est-ce que ça pourrait disparaître assez vite, en fait?
C'est pareil, ça pourrait, c'est une question de moyens, c'est une question de... Alors, il y a des investissements à la fois technologique en termes d'algorithmes, etc. et tout. Et puis, il y a des moyens humains derrière qui sont capables d'intervenir. Il faut effectivement suffisamment d'investissement des deux côtés pour qu'il y ait une réactivité. Quand on leur signale, nous, par exemple, sur des cas de mineurs qui peuvent être victimes, dans l'heure qui suit, ils sont capables de supprimer le contenu. Donc, honnêtement, je pense qu'ils sont capables de faire très vite. Sur l'affaire Mila, quand on leur a signalé un certain nombre d'hashtags, ils ont pu tout de suite les couper. Alors après, ils pourront vous dire effectivement qu'il ne faut pas être en veille en permanence sur tous les hashtags, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément un moment d'alerte parce que, voilà. Mais ça reste encore une fois une question d'investissement. si finalement s'il y avait des services de modération dans tous les pays qui étaient capables de suivre dans chaque pays effectivement l'activité, ils pourraient le faire. C'est encore une fois une question de choix.
Nadia Adam, combien de temps ça a pris pour vous, par exemple, à partir du moment où vous décidez que on les laisse pas faire, donc on va chercher qui il y a derrière ces mails-là. Il faut s'armer de quel genre de patience?
Ça dépend de quoi on parle en fait. Qu'est-ce qu'on attend quand on commence à être victime de cyberharcèlement? On commence parce que c'est un processus, une période qui peut durer assez longtemps, parfois plusieurs années, mais là ça fait quand même ça fait quand même un moment qu'elle subit tout ça, et ça dépend de ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend que le message soit supprimé? Ça oui, on peut attendre très longtemps. Supprimé de quelle plateforme aussi? De quelle plateforme on parle? On parle essentiellement de Twitter quand on parle de hashtag, mais il y a aussi tout l'ensemble même du numérique. Moi je sais que mon affaire à moi elle dure depuis très très longtemps, mais il y a encore aujourd'hui une photo de moi absolument insupportable, et je ne sais même pas en fait à qui m'adresser, et mon avocat lui-même ne sait pas à qui s'adresser, tant cette photo elle a circulé de plateforme en plateforme, elle est absolument infâme. Et donc qu'est-ce qu'on demande? Moi ce que je demande là, c'est que cette photo disparaisse. Donc en général, quand on est victime de cyberharcèlement, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de demander, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on, nous on va faire un signalement et on va demander à ses proches, à sa communauté, à ses followers de signaler à Twitter ou à Facebook, c'est-à-dire d'agiter un drapeau rouge, parce que sinon ils le voient pas. Et en plus, il y a une telle opacité sur les critères de modération qu'on sait pas en fait ce qui peut faire popper à un moment dans les plateformes, enfin dans les robots ou les personnes physiques qui s'occupent de la modération, à quel moment est-ce qu'elles vont décider qu'un contenu est insupportable ou pas, illicite ou pas. Donc on va en fait passer un temps infini à mobiliser les gens autour de soi, à mobiliser sa propre énergie pour faire disparaître un contenu. Et puis après, une fois que le contenu a disparu, ce qu'on veut en général, pas toujours, parce qu'on a le droit de pas forcément vouloir aller en justice, c'est de retrouver la personne, là où les personnes, et de pouvoir aller en justice. Et là, on entre dans un truc sans fin qui peut durer très très longtemps, et qui, encore une fois, et c'est pour ça que j'insiste sur le mot énergie, c'est que c'est quelque chose qui bouffe les gens, qui bouffe les personnes concernées en premier lieu, qui bouffe l'entourage. Et voilà, si on raisonne en termes de temps, en fait, ça ne s'arrête jamais.
Je vous pose la question parce que dans ce fameux film hashtag sale pute, il y a ce témoignage très fort de Pauline Armange qui a écrit Moi les hommes je les déteste, et qui a été bouffée derrière par des messages de ce genre, qui dit de toute façon porter plainte ça sert à rien. Et c'est intéressant comme elle le dit, parce qu'elle le dit exactement comme autrefois, encore aujourd'hui hélas beaucoup, mais on va dire ça va un peu mieux aujourd'hui, une femme victime de viol disait porter plainte ça sert à rien, etc. J'ai l'impression qu'on en est là dans le cyberharcèlement de ce genre-là au degré zéro de là où nous en étions, effectivement, dans les femmes portant plainte pour agression, harcèlement, viol, etc. Justine Atlan.
C'est vrai que c'est un parcours du combattant pour plein de raisons, en fait, qui s'agrègent et qui, du coup, deviennent très problématiques. C'est que, d'abord, ça sert à rien parce que c'est vrai que porter plainte, c'est pas ça qui va faire arrêter ce que vous subissez en ligne. Donc il y a un décalage. C'est pour ça qu'on dit effectivement d'abord il faut signaler, parce que si vous voulez arrêter de voir ces messages et arrêter de les subir, c'est pas la justice qui va le faire. C'est le réseau, c'est là où ça se passe. Donc il faut signaler. Ensuite, la justice, c'est ce qu'on dit toujours aux gens. Porter plainte, vous allez chercher autre chose avec la plainte. C'est 1. Lever l'anonymat si vous ne connaissez pas les auteurs. Et 2. Effectivement, déterminer leur culpabilité et donc les condamner, donc les responsabiliser, sanctionner. Donc la plainte, déjà, c'est ça. Ensuite, effectivement, déposer plainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment aller dans un commissariat ou une gendarmerie et dire je veux porter plainte pour ce phénomène. Or, ce qui est vrai, c'est que très souvent, les victimes, quand elles vont dans des commissariats gendarmeries pour porter plainte pour ce type de phénomène, on va les décourager à porter plainte. C'est interdit en France de refuser votre plainte, mais on va globalement un peu vous décourager en vous disant, d'abord c'est numérique, donc bon, c'est pas très grave, quoi. C'est virtuel, je fais exprès, moi j'emploie jamais ce mot parce que justement c'est bien réel ce qu'on subit. Mais il y a quand même encore ce fantasme-là de vous dire, c'est pas très grave, il y a des choses plus graves, et on n'a pas forcément le temps, etc. Bon, alors en plus quand vous êtes jeune, on va en plus vous dire vous êtes jeune, et puis qu'est-ce que vous avez fait, puis vous y êtes peut-être un peu quelque chose aussi. Qu'est-ce que vous êtes allé raconter, qu'est-ce que vous êtes allé faire.
Donc on parle exactement de la même chose, enfin.
Exactement. La responsabilité porte sur la victime. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait de viol que dans les affaires de cyber.
Vous avez forcément provoqué quelque chose et vous n'êtes pas complètement malade. Donc il y a tout ça qui fait qu'on porte pas plainte. Et ensuite, effectivement, si par miracle votre plainte est prise ou que vous adressez au procureur de la République, puisque ça vous avez le droit de le faire, effectivement, si jamais votre plainte n'est pas découragée, on va dire, vous avez tout le chemin de la justice qui elle aussi, c'est vrai, est très effectivement monopolisée, à part de moyens non plus, donc ça va être long et laborieux. Il n'y a pas de spécialiste, on a un vrai problème aussi d'expertise sur ce sujet-là.
Pardon, je croyais qu'on avait désormais un parquet numérique.
Alors, on a un parquet numérique qui a été créé, c'est une des deux seules choses qui sont restées de la loi Avia, effectivement, l'année dernière. C'est le parquet numérique qui a été créé en janvier, là, et qui, d'ailleurs, son premier dossier est cette affaire Mila. Mais il n'empêche que c'est la première fois, on est en 2021, ça fait 6 mois, donc c'est tout récent.
Ouais. Et ce qu'il faut accepter aussi, Nadia Dame, parce que peut-être que ça vous est arrivé, c'est vous revenez sur le devant de la scène dans ces moments-là, parce que le procès est public, logiquement, c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi pour Mila, ça veut dire qu'on peut s'en reprendre une couche aussi.
Alors c'est ce qui est effectivement assez douloureux, c'est une forme de dilemme, c'est qu'à la fois on veut combattre, on veut se battre pour sa propre affaire et on veut aussi combattre qui est un véritable système, et c'est ce que le film Salpute décrit très bien, et pour ça, il faut se mouiller un peu, il faut aller au front. Or, à chaque fois qu'on reprend la parole là-dessus, et c'est pour ça que la mienne sur le sujet est relativement rare, parce que quand on reprend la parole là-dessus, on remet une pièce dans machine, les harceleurs voient ça dans leur délire comme une nouvelle provocation, et on appuie sur un bouton en réalité. Donc en fait, le dilemme, c'est quoi ? C'est soit je me tais, et c'est l'objectif, c'est le but ultime des harceleurs, c'est de silencer les femmes, parce que sont essentiellement les femmes qui sont victimes de ça, pas que bien sûr, mais beaucoup les femmes statistiquement, donc elles se taisent. Soit je décide de sortir de mon silence, auquel cas je m'expose à nouveau à une nouvelle vague.
Je vous pose la question parce que, je le citais tout à l'heure, le procureur a dit ce procès en parlant de Mila doit servir d'exemple. Du coup, on se dit, est-ce que vraiment, oui, ce procès servira d'exemple?
Vous savez, ils le disent à chaque fois. Oui, alors certes, mais oui. En l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon affaire, c'est quelque chose que j'ai entendu dans d'autres affaires. Le problème, et si, en l'occurrence, là, on parle de la justice, c'est les condamnations sont-elles suffisamment dissuasives pour ça? Moi, sincèrement, je serais un cyberharceleur assidu. Si je vois que le mec, pour avoir menacé de violer une femme avec un tesson de bouteille, il a 6 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende, dont il ne s'acquittera pas par ailleurs, qu'est-ce qui m'empêche le lendemain de recommencer à faire exactement la même chose?
C'est le sens de la question de Francis sur franceinter.fr qui nous dit « Des peines de prison toutes assorties du sursis ont été requises lors du procès en cours. Le sursis est-il adapté pour faire comprendre l'aberration de leur comportement au harceleur ?» Et en même temps, on a aussi envie de retourner à la question, est-ce que ça vaut de la prison ferme? Parce que chacun, en fait, est accusé d'un tweet, enfin d'un message, et que ce qui fait...
Sauf que le message qu'ils envoient, en l'occurrence, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est qu'ils le font en connaissance de cause. Avant, on ne pouvait pas être accusé, attaqué pour une affaire de cyberharcèlement si on n'avait pas envoyé plusieurs messages. Ouais. Aujourd'hui, il suffit d'avoir envoyé un message pour peu qu'on ait participé un raid ou à une meute, et les mots sont forts. Donc là, la personne sait que le message qu'elle va envoyer va s'additionner aux autres.
Et on ne peut pas ignorer, effectivement, qu'on est dans une meute, ce qui est censé être un argument supplémentaire. Ma fille est au collège, nous dit Camille, elle subit un harcèlement en ligne, mais ne veut pas que j'en parle. Hormis la déconnectée des réseaux, à qui m'adresser, Justine Atlan? C'est intéressant la déconnexion, parce que ça aussi, on pourra en parler. La seule solution, à un moment, c'est de fermer, de dire stop.
Oui, alors il y a plusieurs choses quand même qu'on peut faire. D'abord, on peut appeler le numéro 3018, qui est un nouveau numéro national qu'on porte, nous, justement, pour lutter contre le cyberharcèlement et les cyberviolences dont sont victimes les mineurs. Et on a une capacité de signalement directement au service de modération des réseaux sociaux qui sont nos partenaires et avec qui, effectivement, on peut demander de supprimer les contenus. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, si cette jeune collégienne est également harcelée dans le cadre de l'école, enfin du collège, donc elle connaît, pour le coup, elle, les auteurs, ce qui peut être le cas dans ces cas-là, la responsabilité, elle retombe, je dirais, dans la sphère scolaire. Et c'est vrai qu'il faut évidemment que les familles s'adressent à l'établissement scolaire qui connaît les élèves et qui peut intervenir. Et là, les sanctions peuvent intervenir parce qu'on est quand même face à des jeunes en construction. Donc il y a une valeur éducative de la sanction qui est très importante. La déconnexion, de toute façon, oui, quand quelque chose nous fait souffrir, un objet, un lieu, il faut évidemment arrêter. Maintenant, c'est double peine, toujours c'est ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire, pourquoi se priver d'un espace qui est aussi un espace d'expression, d'épanouissement, pour les jeunes, qui peut être très important et structurant et de socialisation? Parce que certains, simplement certains, donc c'est là où il y a aussi ces plateformes-là qui peut-être, elles aussi peuvent intervenir et peuvent avoir des sanctions qui peuvent être très efficaces d'ailleurs, peut-être plus même.
Et alors justement, parce que en parlant de sanctions, dans le sens de Camille, mais aussi de notre auditeur précédent Francis, est-ce qu'il faut inventer un délit qui n'existe pas en fait? Est-ce qu'on est en train aujourd'hui de travailler autour de délits sur avec des bases que nous avions lorsque les réseaux sociaux n'existaient pas en quelque sorte? Donc on travaille sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux délits?
Non, moi je pense pas. Enfin, je suis pas la seule à le penser.
Vous êtes au moins deux, donc, là, ce soir.
Oui, déjà, et puis il y a d'autres aussi. Non, a priori, on a quand même un arsenal juridique qui est assez au point. Mm-hmm. Effectivement, il a été un peu précisé avec un certain nombre de lois qui ont été faites au fur et à mesure des années, mais c'était plutôt des précisions pour combler des vides juridiques sur le revenge porn, sur le harcèlement émeute, etc. Mais le juridique, il existe. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'application. Mm-hmm. L'application et l'application systématique. Parce que ce que vous disiez aussi, c'est que ces procès-là qui sont emblématiques et qui ont une valeur d'exemple et qui, certes, ont une vertu, la preuve en est, c'est qu'on en parle. Donc, bien sûr, c'est important. Mais il y en a trop peu, pas assez souvent. Mmh. Et il faudrait aujourd'hui que, si vous voulez, quand vous êtes auteur de ce type de violence en ligne et de cyberharcèlement, vous ayez quand même la crainte de vous faire attraper. Alors, vous n'allez pas toujours vous faire attraper quand on brûle un feu rouge, on ne se fait pas toujours attraper. Mmh. Mais on sait qu'on risque quand même. Mmh. Et parce qu'on le sait que des gens... Il faudrait qu'on ait tous dans notre entourage, finalement, des gens qu'on connaît de près ou de loin, à qui c'est arrivé, qui se sont fait attraper. Qui ont... Et finalement, être condamné, au bout, il y a la sanction. Mais il y a quand même la vertu aussi de responsabilisation du moment du procès. Hein. C'est quand même quelque chose qui est très important et qui participe aussi. On le sait, et ça, je pense que quand même les auteurs qui se retrouvent dans un tribunal, qui doivent
quand ils commencent à regarder le bout de leurs chaussures,
voilà, vous voyez, ce moment-là, il est important aussi, et pour certains, heureusement d'ailleurs, ça pourra suffire à faire en sorte qu'ils ne soient pas récidivistes. C'est quand même ce qu'on veut aussi obtenir.
Bonsoir, Réjeanne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Réjeanne, allez-y.
Le problème, me semble-t-il, de l'éducation, ces gens qui effectivement se rendent coupables de harcèlement cyber, etc. Il me semble que le plus gros problème de ces gens-là, c'est juste le manque d'éducation, le manque de vivre ensemble, de faire société ensemble. Et je me pose la question de savoir quels sont les pouvoirs le potentiel des pouvoirs publics pour remettre dans l'éducation de tous nos jeunes cette façon de pouvoir vivre ensemble avec nos différences, avec nos différents de points de vue, avec toute notre richesse culturelle, en fait. Merci. Où on n'est pas tous pareils.
Merci beaucoup, Réjeanne. Dans un monde idéal, c'est comme ça que ça se passe. D'abord, spontanément, c'est ce que fait Réjeanne, mais pas la seule, elle dit les jeunes.
Ouais.
Mais c'est pas que des jeunes, non. Nadia Dame, vous
précisément
êtes là, vous
pas.
Pouvez vraiment en témoigner.
Ouais, et c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on corrige, nous tous, collectivement, dans les médias, nous, quand on en parle. C'est de toute façon d'imaginer en effet que le harceleur, le profil type, c'est un jeune, pour dire les choses poliment, parce que généralement on imagine que c'est un puceau dans le sous-sol de ses parents, etc. Et ça pose deux problèmes, c'est que déjà c'est factuellement et statistiquement faux. On le voit dans l'affaire Mila, on l'a vu dans mon affaire, on le voit dans d'autres affaires, ce sont des hommes majeurs qui ont entre 18 et 45 ans, certains sont architectes, certains sont étudiants, d'autres sont au chômage, d'autres, voilà, ce sont des gens qui sont pas hors de la société, comme le suggérait Réjeanne, ils sont pas à la marge. Ce sont des gens qui font société le reste du temps, mais une fois qu'ils vont se connecter à leur ordinateur, vont tenir des propos absolument délirants. Et l'autre problème que ça pose quand on dit ce sont des jeunes et des ados, c'est que de fait, on va dédouaner les adolescents et le harcèlement en milieu scolaire. C'est-à-dire, si on considère que c'est un truc de jeunes, c'est qu'on considère déjà que c'est jamais qu'un truc. Et qu'en plus, c'est quelque chose qui va avec la jeunesse, qu'il faut que jeunesse se fasse et que jeunesse se fasse sur les réseaux sociaux en étant un port immonde, violent et menaçant. Donc il faut arrêter effectivement d'avoir ce tropisme-là qui est faux.
Et j'allais dire même que si c'était que ce que nous suggérait Jeanne, c'est-à-dire que un problème d'éducation, ce serait pas si grave, en quelque sorte. Parce que là, ce que ça dit quand même derrière, c'est que, enfin, dans la vie de tous les jours, quand on se rencontre, on s'insulte pas, on ne se traite pas de tout et de rien, comme si, au fond, c'est un terme qui a été employé dans un papier sur le sujet, j'arrive plus à repérer lequel, peu importe, mais y a plus de contrôle social, en quelque sorte. L'idée, c'est vraiment ça. Dans la vraie vie, évidemment qu'on fait attention, évidemment qu'on n'est pas homophobe, évidemment qu'on n'est pas raciste, évidemment que...
Il n'y a plus de filtre.
Au fond, est-ce que ça dit pas que, en fait, si? Au fond, tous ces gens-là, on les tous un peu probablement, et ces gens-là particulièrement, et que sans ce filtre-là, boum, c'est parti.
Alors d'abord, oui, vous dites on n'est tous pas, non, on n'est pas tous pas. On change pas quand on est derrière. Enfin, on n'est pas tous. Je pense que ce qui est intéressant quand même avec cette époque des réseaux sociaux, c'est que il faut pas penser que ça crée des nouveaux problèmes. Ça révèle, si vous voulez, des choses qui préexistaient. Pour moi, c'est un symptôme très fort, effectivement, de choses qui préexistaient. Donc, Il y a cette violence verbale en réalité, hein. On peut la trouver dans des espaces publics, on peut les entendre, hein. On peut les entendre dans des cafés, dans des restaurants, dans des concerts, dans des places publiques, dans des jardins. C'est pas vrai, on les a tous entendus, on les entend. Maintenant, effectivement là, il y a la permanence de l'écrit qui est quand même quelque chose qu'on a sur ces plateformes de réseaux sociaux, mais c'est de l'oralité écrite. Donc effectivement, c'est des choses que d'habitude on entendait, que maintenant on écrit, qu'on peut revoir, regarder. Évidemment qui se multiplie, et effectivement avec l'aspect complètement désinhibant d'être caché derrière son écran. Et là vous parlez de contrôle social, c'est-à-dire qu'on a l'illusion, parce que comme quoi c'est une illusion, qu'on va pas nous voir, qu'on va pas nous retrouver. Et ça c'est vrai que ça manque de contrôle social évidemment, et notamment, alors là si on revient aux jeunes, c'est qu'effectivement il y a plus d'adultes qui sont capables de les éduquer, c'est-à-dire de leur dire attention, ça se dit pas, on fait pas, etc. Ce qui est normalement le cas, parce qu'à la famille il y a les parents, à l'école il y a d'autres adultes. Donc c'est vrai que là quand même je voudrais revenir à ce que disait l'auditrice, c'est que c'est vrai quand même que ça révèle de la même façon, je pense, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, comme la laïcité ou autre, c'est qu'on a manqué quand même à nos devoirs d'éducation au niveau de la structure, de l'institution éducation nationale depuis longtemps, depuis trop longtemps, et que l'éducation nationale s'est adressé beaucoup au cerveau des enfants, c'est-à-dire dans la transmission de savoir, mais a un peu lâché de plus en plus la transmission de former des futurs citoyens de la République française. Et le citoyen, il n'est pas que un cerveau de savoir, il est aussi un être humain qui doit apprendre à vivre en société et à respecter ses règles. Et les enfants, on leur apprend pas. On leur apprend pas rien. On ne leur dit rien sur effectivement ce que vous appelez la discrimination, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Ils n'en savent rien. Et ils vont l'apprendre peut-être quand ils dérapent. Et là, on va leur dire c'est ça. Mais c'est pas ça, éduquer. Éduquer, c'est transmettre effectivement les messages, la pratique, etc. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça révèle aussi ça, ces problèmes qu'on a sur les réseaux sociaux.
Claire, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Claire.
Oui, je me posais la question, est-ce que ce serait pas possible de mettre en place avec les réseaux sociaux une suspension temporaire de une semaine ou un mois pour les personnes dont les contenus ont été signalés Alors, c'est peut-être pas très pédagogique, mais peut-être que ce serait dissuasif, en tout cas.
On l'a fait pour Trump, hein. Pourquoi pas pour d'autres? Merci voilà. Beaucoup, merci beaucoup, Claire. Pourquoi pas, Nadia Dame, quand ils sont identifiés?
Sur le papier, fermé. Ça a l'air d'être une bonne idée, parce qu'en effet, je pense que les harceleurs, les cyberharceleurs ont mille fois plus peur d'être dépossédés de leur outil de cyberharcèlement que d'avoir 6 mois de prison avec sursis, voire en plus, ils se glorifient de ça. C'est presque une fierté d'avoir écopé de 6 mois de prison avec sursis, alors qu'ils vont pas se vanter de plus pouvoir aller sur Internet, parce que de fait, ils n'auront plus le droit d'aller sur Internet. Sauf que, quand on coupe une tête, une autre pousse. Et en l'occurrence, c'est impossible de couper l'accès de quelqu'un à Internet. Ce qui s'est passé dans mon affaire, mon harcèlement a commencé sur un forum qui s'appelle jeuxvideo.com, forum 1825. Il leur est impossible aujourd'hui de taper mon nom sur ce forum-là. Il est modéré immédiatement. Ce qui les rend dingues, eh ben, ils ont migré ailleurs, en fait. Donc c'est en ça que c'est une fausse solution, c'est que c'est pas sur le support qu'il faut agir, même si évidemment il y a des leviers activés au niveau des plateformes, mais c'est d'abord sur les comportements, encore une fois.
C'est intéressant parce que, en revanche, vous avez quitté, alors vous êtes revenue, Nadia, à tout petit pas, vous ne voit pas beaucoup, mais vous êtes revenue quand même. La première solution, la première chose que chacun fait, c'est effectivement fermer le compte, comme ça au moins on ne voit plus rien, il ne se passe rien. Et encore une fois, je fais l'analogie avec ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'une femme est frappée par son mari, qui quitte la maison, en général, c'est elle. Enfin, on a l'impression vraiment qu'on est exactement dans les mêmes schémas.
Oui, c'est ce qui se passe aussi à l'école, où effectivement, quand un enfant est harcelé, on va plutôt lui dire de quitter et changer d'établissement que de résoudre le problème des harceleurs. C'est-à-dire, c'est toujours la double peine pour la victime. C'est à elle de résoudre toute seule le problème, en fait. C'est-à-dire de se réparer, d'aller faire, etc. Et donc, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Alors, les jeunes, en tout cas, ont plus de mal à le faire. C'est-à-dire que souvent, les victimes sont plutôt dans quelque chose d'un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on leur dit au contraire, pourquoi tu quittent pas. Et eux, ils n'arrivent pas à quitter parce que c'est trop pénalisant d'être
socialisés. Et parce qu'ils ont besoin de ces...
Exactement. Donc en fait, ils vont plutôt faire, Emilia l'a fait aussi au début, c'est-à-dire qu'ils vont se déconnecter, puis se reconnecter, déconnecter. C'est-à-dire que tout en temps, ils se disent, je veux quand même aller voir ce qui se passe, je veux quand même savoir, je peux pas ne pas savoir. C'est quand même... Donc voilà, donc il y a les deux. Mais c'est vrai que c'est pas normal, évidemment, et qu'il faudrait peut-être imposer une forme de déconnexion, en tout cas temporaire. C'est ce qui se passe malgré tout, hein, de bannir des comptes avec un certain temps, voilà, qui dépendrait de la gravité des faits.
Mila est revenue à la charge à un moment comme si effectivement, c'était parfois plus fort que soi. Est-ce que vous avez cette tentation, vous, Nadia, parfois ?
Plus tellement, déjà, parce que je pense qu'on peut vivre très bien sans avoir mon avis sur tel ou tel fait de société. Mais oui, dans un premier temps, oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux sont partout. C'est un canal hyper fort et hyper important, surtout quand on est journaliste comme moi. Donc oui, moi, j'ai vécu comme une injustice dans un premier temps, le fait de m'être collé à moi-même une muselière, sauf que c'est pas exactement ça qui s'est passé. On m'en a collé une, mais... Et donc, on va être tenté de revenir venir. Et puis en fait, il suffit de repasser quelques minutes sur Internet pour être que la violence, non pas adressée à moi, hein, je me fais pas agresser dès que j'arrive sur Twitter, mais la violence entre les personnes nous saute au visage. Et en fait, on devient assez sensible à ça. Moi, ça me saute aux yeux et je me demande si à l'époque où je fréquentais assidûment les réseaux sociaux, ou peut-être que j'étais moi-même autrice, non pas de cyberharcèlement, mais où je pouvais avoir des propos peut-être un peu durs, est-ce que je me rendais compte à l'époque d'à quel point c'est un environnement toxique et raide. Et en fait, sincèrement, on vit relativement bien sans que ce soit normal, pour autant que ce soit un territoire interdit à certaines personnes, en l'occurrence aux personnes harcelées.
Voilà, mais après on me demande pourquoi je parle de figolu toute la journée.
C'est très bien. Et les piscines, c'est un vrai sujet.
Mais exactement, les vrais sujets, que les vrais sujets. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors j'aurais voulu savoir si les invités avaient déjà eu connaissance de tentatives pour engager la responsabilité des plateformes, donc directement des plateformes, pour leur inaction face à des propos qui sont constitués de harcèlement ou d'incitation à la haine.
Merci beaucoup pour votre question, Jeanne. Accusé, levez-vous. Monsieur Twitter, bonjour. C'est possible, ça, ou pas? Rien qu'en le disant, on se rend compte de la difficulté de la chose.
Non, c'est possible. Hein, ça a déjà été réfléchi. C'est possible de le faire. Après, c'est vrai que malgré tout, ils ont une réactivité. Pour l'instant, en fait, le cadre de la loi ne leur impose pas un délai. Il y a une idée de délai prompt ou rapide, mais il n'y a pas de délai. Donc tant que le délai n'est pas quantifié, parce qu'en fait ils finissent par supprimer, en l'occurrence Twitter, ce qu'on lui reproche c'est le temps en fait que le réseau met à supprimer. Mais au bout d'un moment, si vous lui signalez, il va finir par le supprimer. Le problème c'est qu'effectivement les dégâts continuent de durer. Donc après, pour engager sa responsabilité, il faudrait effectivement quantifier. C'est pour ça d'ailleurs que la proposition de loi Avia justement envisageait de fixer à 24 heures le délai, de dire au-delà des 24 heures, là pour le coup on peut engager la responsabilité puisque ce délai est précis, et ils n'ont pas voulu évidemment s'engager là-dedans parce que c'est vrai que la responsabilité donc pour l'instant on est un peu coincé à cause de ce délai-là qui n'est pas suffisamment précis, mais bien sûr que c'est quelque chose qui pourrait être fait, et les plateformes le savent très bien, c'est pour ça qu'elles ne veulent pas s'engager sur un délai trop contraignant pour elles.
Dans ces cas-là, dans un monde idéal, on peut le faire, on attaque Twitter France, chacun dans son pays en gros attaque sa branche de Twitter, c'est comme ça que c'est censé se produire, comment on marche
sur... C'est-à-dire qu'il faut un représentant légal, c'est toute la question du représentant légal, pareil, ça doit être défini par la loi, et pour l'instant c'est pas forcément justement le cas, il faut un représentant légal, comme pour n'importe quelle société, qui soit pénalement responsable dans le pays, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour toutes ces plateformes, donc c'est vrai qu'en général, les avocats vont plutôt aller s'adresser outre-Atlantique. Et donc, ce qui complique beaucoup les choses en matière judiciaire, effectivement.
Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
On vous écoute Anaïs.
Alors, moi j'ai appelé parce que il y a une vingtaine d'années, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai fait de la sensibilisation à l'image et aux médias au sein des écoles, des collèges et des lycées. Leur montrer comment on pouvait détourner des images, des sons... Et bon, j'ai changé de travail parce que on n'avait plus les moyens. C'est une association qui s'en occupait. Et on n'avait plus les moyens de le faire. Donc, maintenant je suis éduquée, donc je reste un petit peu là-dedans. Mais je pense que ça devrait être obligatoire dans les écoles, enfin obligatoire. Cause nationale, comme on dit en ce moment, de faire des interventions pour sensibiliser les jeunes et les plus jeunes aux médias et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux.
Merci Anaïs. Quand j'entends Justine Atlan, aussi bien à votre procès Nadia que celui de Mila d'ailleurs, c'est je savais pas, j'ai pas voulu, je croyais pas faire de mal, etc., etc. Ça rejoint ce que dit Anaïs. Est-ce que pour éviter cet argument-là, justement, il n'y a pas effectivement quelque chose à faire pour expliquer où ça va, ce message. Il est reçu par quelqu'un, une personne humaine qui le reçoit réellement, et ça fait partie de ce que nous suggère Anaïs. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus?
Bien sûr qu'il y a un travail à faire, c'est ce que disait Nadia, c'est qu'en fait, ça reste des comportements humains qui se servent de cet outil nouveau de communication qu'on a, que sont les réseaux sociaux, avec leur impact, leur puissance, etc. Mais ça reste des êtres humains qui décident qui ont leur libre arbitre, à un moment, d'écrire ça et de l'envoyer. Alors effectivement, la difficulté, c'est qu'on ne voit pas à qui on l'envoie, on ne voit pas la réaction que ça produit chez l'autre. Donc si vous n'êtes pas capable tout seul d'avoir effectivement cette représentation de l'autre, cette empathie, comme on dit, et cette faculté d'eux, vous allez être dans la pulsion, hein, c'est de la pulsion, effectivement, d'écrire et d'envoyer, peu importe finalement où ça arrive, ce que ça cause. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont naturellement, d'autres pas, donc ça se travaille, ça s'apprend, et effectivement, il faut éduquer.
Et très souvent sans savoir qui on attaque et comment d'ailleurs, et pourquoi d'ailleurs, hein, parce que j'imagine qu'après votre chronique, vous, sur Europe en l'occurrence, j'imagine qu'il y a plein de gens qui vous ont insulté sans savoir pourquoi
c'est
ils vous ont insulté.
C'est assez délirant, y compris des personnes qui ont été condamnées et qui ont dit au tribunal, devant nous tous, en l'occurrence le parquet a posé la question à un des garçons, en lui disant, mais qu'est-ce qu'elle a dit en fait, Nadia Adam, pour que vous répondiez ça? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc c'est absolument pas anodin, ça. C'est-à-dire qu'on, ça veut dire qu'on n'attaque pas, que ces personnes-là n'attaquent pas un propos, ils n'attaquent pas une personne, ils attaquent un symbole, c'est-à-dire une personne qui s'exprime, en l'occurrence une femme, pour ce qui me concerne moi, pour ce qui concerne Mila ou plein d'autres, et que, évidemment, que tous ces gens-là, ils savent très bien que c'est interdit par la loi, et que c'est vraiment pas très très sympa de dire à quelqu'un qui doit mourir. Donc l'éducation, elle est faite là-dessus, les parents le font, l'école le fait, on sait qu'il ne faut pas menacer les gens de mort. Donc il faut travailler sur autre chose en fait.
Dans l'affaire de Mila, il y en a un sur les 13 qui s'est excusé, qui lui a dit je me rends bien compte aujourd'hui de ce que j'ai fait. Est-ce que sur les 7, il y en a eu un qui vous l'a dit au moins ou pas vous, Nadia?
De mémoire, il me semble qu'il y en a un, mais je suis pas sûre d'acheter totalement la sincérité de ses propos. En fait, j'ai plus été frappée par l'inverse, c'est-à-dire des garçons qui certes sont arrivés au tribunal un peu empruntés, un peu mal à l'aise, mais qui en fait une fois en plus comme ce sont des procès médiatisés, quand ils ont vu qu'il y a des caméras, ils ont fait des marioles, en fait. C'est ça le pire, et c'est en ça qu'on peut douter de la vertu d'un procès comme ça médiatisé, c'est qu'on est pas tellement sûr que ça rééduque ou que ça éduque qui que ce soit, parce que ils ont exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire être dans la lumière, certes, pour de mauvaises raisons, pour menacer une femme de viol et de mort, et une adolescente en ce qui concerne ma fille, mais au moins, ils ont eu des caméras, et c'est ce qu'ils cherchaient. Le regard.
La question à 1000 euros qu'on n'a pas encore posée, c'est Yves qui le fait. La solution ne passerait-elle pas, au moins en partie, par l'obligation de s'exprimer sur les réseaux sociaux sous sa véritable identité? Donc le serpent de mer de l'anonymat sur Internet, qu'est-ce qu'on en fait de ça?
Il y a l'anonymat et le pseudonymat, je pense que c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas tellement l'anonymat, parce qu'en réalité, la preuve en est, on arrive à retrouver l'identité des auteurs 9 fois sur 10, mais effectivement dans le cadre d'une procédure, parce que c'est comme ça qu'on peut demander cette injonction aux plateformes. Le pseudonymat est quand même une règle qui a été à la création d'Internet et qui normalement devrait pouvoir demeurer en réalité. C'est pareil, on va pas tout changer non plus, parce qu'il y a...
Parce qu'en plus, l'anonymat et le pseudonymat, c'est important pour d'autres catégories de la population, évidemment. Pour les lanceurs d'alerte, pour dénoncer des violences.
Et même pour des adolescents, et même c'est un lieu, il faut garder ses vertus, encore une fois, à ce nouvel outil de communication.
Voilà, rien n'est simple, mais croisons les doigts pour que, effectivement, au fur et à mesure, toutes ces choses servent d'exemple et qu'on a fini ce jour. Merci vraiment beaucoup pour votre présence, merci à tous pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.